Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1 Culture Média. 9h, 11h. Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, c'est la partie culture de l'émission maintenant avec le chanteur Miossec de retour avec un titre inédit en duo. Et puis dans les indispensables, un livre en compétition pour le prix Europe 1 GMF et une série inspirée d'une BD à voir sur Netflix en fin d'émission. Évidemment, on vous l'a annoncé, le portrait inattendu de Juliette Binoche. Portrait inattendu signé Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel.
Mais d'abord, c'est votre journal de la culture qui débute ce journal avec des informations concernant l'ouverture des salles de spectacle.
Ça se précise, Philippe. Les choses sérieuses commencent. Rien de décidé encore, rien d'officiel. Mais les scénarios s'envisagent. Franck Riester, le ministre de la Culture, a annoncé qu'il travaillait sur une réouverture des salles de spectacle début juillet. Il évoque même d'ouvrir progressivement à partir de juin. Des annonces seront faites jeudi sur ces sujets suite au Conseil de défense. Franck Riester milite, comme pour les cinémas, que les théâtres ouvrent au même moment dans tous les départements.
Un nouveau directeur à la tête du musée du Quai Branly.
Le Kanak Emmanuel Cazaréou va être nommé aujourd'hui à la présidence du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Alors c'est l'ancien directeur du centre culturel Tchibaou à Nouméa, expert des cultures océaniennes. Depuis 2014, il est adjoint au directeur du patrimoine et des collections de musées. Il succède donc à Stéphane Martin. Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, a adressé ses félicitations à Emmanuel Cazaréou en précisant qu'aucun Kanak n'avait jusqu'alors pris la responsabilité d'un grand musée hexagonal.
Hier avait lieu la vente aux enchères Astérix et cette vente a battu un record.
Oui Philippe, des records de générosité. Cette vente avait été organisée chez Arcurial. Les fonds vont être reversés à la fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. La famille d'Albert Uderzo avait décidé de mettre aux enchères des planches originales. Les quatre planches ont été vendues pour un total de 390 000 euros. Le plus haut prix de la vente revient à la planche de Tanguy et la Verdure, extraite de l'album Escadrille des Cigognes, vendue donc à 150 000 euros.
Dingue, moi j'aurais dit que ça allait être la planche d'Astérix dans laquelle figurait le mot coronavirus. Ah. Tout à fait autre chose, l'auteur J.K. Rowling continue d'offrir du contenu pendant cette période du confinement, même si nous sommes pré-confinés, pré-déconfinés.
Elle ne s'arrête jamais, J.K. Rowling, après avoir créé un site spécial confinement sur l'univers Harry Potter, puis de mettre en libre accès les livres en ligne pour les enseignants. J.K. Rowling a décidé de publier en ligne gratuitement un conte qu'elle a écrit il y a 10 ans afin de distraire les enfants confinés. Il est fait pour être lu à haute voix. Ce sera comme un feuilleton. Alors c'est jusqu'au 10 juin. Ça s'appelle The Aïkabog, c'est le nom du personnage. Ouais. Tout se passe dans un pays imaginaire, donc il est destiné pour les enfants de 7 à 9 ans. J.K. Rowling a décidé lors d'un dîner de mettre ce livre à disposition. Ses enfants ont validé l'idée. The Aïkabog sera disponible au format livre imprimé, livre audio ou e-book. Plusieurs traductions seront disponibles très prochainement.
Un tout autre sujet, partons sur les traces d'Indiana Jones.
Vous êtes un peu le Indiana Jones de Culture Média, Philippe
mais
Vandel.
Mais tellement.
Il a même la coiffure.
En plus, il l'assume.
Mais ouais, bien sûr.
Indiana Jones 5 sera réalisé par James Mangold, à qui l'on doit Logan. Le dernier volet de l'aventurier date de 2008, c'était il y a 12 ans. Alors on ne sait pas encore si Harrison Ford sera toujours le personnage principal ou si le scénario mettra en avant un tout nouveau héros. Le script vient de commencer et il y aura tout de même de nouveaux développements, comme l'a précisé Harrison Ford, qui reste toujours très impliqué dans le projet. Indiana Jones sera produit par Steven Spielberg. La sortie idéale du film serait donc en juillet 2021. Mais ça sera sûrement retardé.
Et puis on va passer à la musique avec le retour d'Indochine.
Oui Philippe, ils ont annoncé les festivités pour leurs 40 ans de carrière. Alors en 2021, 5 concerts dans des stades, dont le Stade de France, entre mai et juillet. Mise en vente des places le 29 septembre. 2 compilations retraçant leur carrière avec 52 chansons. Le premier CD sortira le 28 août avec tous les singles sortis entre 2001 et 2021. Deuxième CD le 27 novembre avec les titres sortis entre 1981 et 2001. Et puis surtout, Indochine a dévoilé une nouvelle chanson, ça s'appelle Nos célébrations. Nos célébration que vous écouterez tout à l'heure en intégralité.
Et puis on termine ce journal avec le nouveau spectacle de quelqu'un dont on parle beaucoup à cause de ses conversations téléphoniques présidentielles, Jean-Marie Bigard.
Et oui, l'humoriste a annoncé sur Facebook qu'il se produira le 20 juin prochain depuis l'Apollo Théâtre à Paris avec un tout nouveau spectacle sur le confinement. Son public, évidemment, rendez-vous à 19h30. Vous pourrez suivre son spectacle grâce à un lien. Ça coûtera 10 euros, dont 1 euro qui sera reversé aux hôpitaux de France.
Merci beaucoup, Hélène Manarino. À demain pour un nouveau journal.
À demain.
Le chanteur Miossec est notre prochain invité et vous allez l'entendre. Son confinement a été très créatif. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Miossec.
Bonjour Miossec.
Bonjour.
Faut-il vous présenter ? Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Vous avez démarré très fort votre carrière avec vos deux premiers albums, Boire et ensuite Baiser. Ça, c'est des titres d'albums. J'en parle parce que les sorties d'albums sont rares, évidemment, en ce moment à cause du confinement et même les collaborations, toujours pour la même raison. Et pourtant, si j'ai bien compris, vous avez eu la chance de pouvoir faire de la musique en duo, car vous étiez confiné avec une musicienne, une violoniste virtuose. Qui est-elle ?
Elle s'appelle Mirabel Gilis, en fait, elle est violoniste et s'est formée à l'école russe à Saint-Pétersbourg et un peu partout dans le monde, donc oui, à un gros niveau.
Ouais, vous jouez ensemble depuis combien de temps ?
Oh, ça fait depuis 5 ans qu'on joue ensemble, mais on n'avait jamais fait quelque chose de ce goût-là ensemble. Enfin, Mirabel n'avait jamais chanté, n'avait jamais été chanteuse jusque-là. Ouais.
Où étiez-vous confiné ? Est-ce que vous l'êtes toujours ? Où est-ce que vous vous trouviez, vous vous trouvez ?
Nous sommes basés dans le Finistère Nord, à côté de Brest, en fait.
Locmaria, c'est ça ?
Oui, voilà.
Voilà, vous avez dit dans une cabane. Qu'est-ce que vous appelez une cabane ?
Oh, c'est une vraie cabane du Canada, en plus, donc... C'est vraiment là où sont tous nos instruments, l'ordinateur et tout ça, donc c'est là qu'on s'est mis à travailler.
Et vous avez fait de la musique ensemble, vous venez de sortir un titre qui s'appelle En, E-N, Ouest France écrit sur vous, c'est superbe, touchant, doux et poétique, et Ouest France ajoute, c'est éclatant, organique, vivant, et donc ça fait plaisir, non ? C'est votre cousin qui a écrit le papier ?
Non, pas vraiment. Mais ça fait plaisir parce que c'était un peu le but du jeu, c'était de faire du bien.
Ouais.
Faire une chanson qui fasse du bien.
Écoutez, je vous fais un compliment. On en a entendu des chansons de confinement. Elles sont pas toutes bonnes, je peux vous l'assurer. Mais d'abord, on va entendre le titre en entier dans quelques minutes quand on marquera une pause. Mais d'abord, on commence par un extrait. Mirabel Gilis et son violon. Comment vous avez travaillé ? C'est parti de quoi ?
Oh, c'est parti du hasard, en fait. Enfin, c'est parti du virus en lui-même, parce qu'on s'est retrouvés confinés. On s'est dit qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire.
Ouais.
Mirabel s'est mise à chanter ce qu'elle n'avait jamais fait. Et puis, du coup, je l'ai rejoint et on a fait 4 chansons comme ça.
Mais le texte, il est absolument magnifique. En permission, en suspension, en verre, en papillon, en chien de faïence, en détention. C'est très, très beau, cette anaphore. Ça est venu comment ? C'est vous qui avez écrit le texte ?
J'ai l'envie. Oui, oui, oui. Ben, c'était l'envie de résumer tous les états émotifs dans lesquels on est passé durant cette période et dans laquelle on passera encore. Mais ouais. Du coup, ça passait de la joie à la tristesse, au deuil, puisque le chanteur Christophe est décédé à Brest et c'était un coup dur.
Ouais.
Et il y a eu des moments de joie également. Enfin, du coup, la création, c'était de la joie.
Ouais. En tôle, en boîte, en toile de fond, en panne, en peine, en pleurs, en manque, en chair, en os, en cœur, en voix de guérison. Même quand je le dis comme ça, c'est beau. Alors en musique, c'est juste complètement dingue. Vous allez entendre quand on va entendre la chanson en entier. Le son est formidable. C'est vous qui avez mixé. Vous avez tout fait dans votre cabane.
Ben, c'est ça qui est dingue. C'est que des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles se sont avérées parce qu'on n'a pas eu peur, on s'est jeté à l'eau et c'est Mirabel qui a tout enregistré en fait, chose ouais. Qu'on n'avait jamais fait auparavant. Donc on était dans l'apprentissage, on faisait tout en même temps et en autarcie quoi, donc ouais. C'est assez dingue.
Mais c'est vous qui avez mixé, je veux dire pourquoi ? Parce que j'ai lu un papier qui disait que ça avait été mixé à Bruxelles.
Ah oui, des bandes ont été envoyées après sur Bruxelles, c'est Géraldine Gapard qui a mixé. Toutes les prises de son ont été faites ici.
Ouais. C'est assez rare pour être signalé, c'est une femme qui mixe, c'est pas souvent dans ce métier qu'il y a une femme, on va redire son nom, elle s'appelle Géraldine Gapard. On va entendre le début, parce qu'on vous a pas fait entendre le début du titre. Et il est quand même assez ambigu. Hier, Jérémy, le réalisateur de l'émission, s'amusait à lancer le son dans le bureau et on s'est dit, mais c'est pas possible, il regarde Pornhub, pas du tout.
Entre parenthèses. En permission. En suspension.
En verre.
En papillon.
En chien de faïence.
En détention.
L'idée de ces « en », c'est venu comment, Miossec ?
À vrai dire, je ne sais pas, je ne sais jamais trop. Mais l'idée de la chanson, ça venait du « Au Superman » de Laurie Anderson.
Ah, c'est tellement beau, qui fait « ah, 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 ah,
oui, voilà.
Ah, ah », avec un répétiteur, avec une loupe, une boucle.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà. Mais là, vu la vitesse, c'était ambigu. Et puis cette voix de femme, comme on la connaissait pas chez vous, alors que Laurie Anderson, on connaissait sa voix. En tout cas, c'est très, très, très réussi. D'autres titres sont prévus avec Mirabel Gilis, c'est ça, vous dites, il y a quatre titres qui vont, en tout, dont trois qui vont arriver.
Oui, voilà, puis il y a un quatre titres qui devrait sortir le 22 juin.
D'accord. On va l'entendre maintenant en entier, en...
Mais oui, on a beaucoup parlé de ce titre, je vous propose de l'écouter maintenant, messieurs, d'écouter votre touchant duo Miossec avec Mirabel Gilis, ce titre composé pendant le confinement. On écoute en sur Europe 1.
Entre parenthèses. En permission. En suspension.
En verre.
En papillon.
En chien de faïence.
En détention.
On écoutait Miossec et Mirabel avec leur titre En sur Europe 1. Et c'est mieux celle qui est notre invitée. On continue à parler de son actualité dans un instant. C'est Culture Média jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est mieux celle qui est l'invitée de Culture Média pour parler notamment de cette nouvelle chanson en... composé pendant le confinement avec sa compagne Mirabel Gillis, Philippe.
Oh, on a cru que vous aviez arrêté la phrase, mais pas
oui,
du
mais
tout,
non,
c'est le titre de la chanson. C'est vrai que c'est très étrange,
on
cette
vient
chanson
d'écouter.
Qui
ouais.
s'appelle « En », c'est un duo, Céline l'a dit, avec Mirabel Gillis. Elle a un groupe qui s'appelle Les Amirals, et mieux c'est que je vous en parle, parce qu'il paraît que c'est vous qui l'avez incité à monter ce groupe, racontez.
Oh oui, c'est toute une longue histoire avec Mirabel, en fait, qui a eu plusieurs groupes. Elle a été basée une époque à Istanbul, après sur Londres, à Saint-Pétersbourg, sur Paris.
Ouais.
Puis elle est arrivée sur Brest et du coup, oui, il fallait vraiment qu'elle monte son groupe et ne plus être au service des autres, en fait.
Ouais.
Donc c'est chose faite. Hein.
Et pourquoi ce titre, Les Amirals, c'est vous qui avez trouvé le nom du groupe ?
Ah non, non, j'y suis pour rien, là. Non, non, c'est lié à la situation de Brest, en fait. On a déjà un amiral qui s'appelle Kersauzon, donc voilà.
Voilà, et je précise que les amirals sont des femmes, sinon on aurait dit les amiraux, justement, parce que c'est bien quand il y a des femmes qui commandent les navires. On va entendre quelques mesures des amirals. Et sur la fin du titre, évidemment, on entend le violon de Mirabel Gillis. À part la musique, mieux c'est, comment vous avez vécu ce confinement ? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé durant cette période ?
Oh, ce qui m'a frappé, c'est la stupéfaction, en fait, générale. Enfin, le fait que tout le monde soit suspendu à quelque chose comme ça, un virus, alors qu'on s'attendait plutôt à une guerre, enfin, à des choses beaucoup plus violentes. Et
ouais.
Tout d'un coup, c'était un petit virus qui venait interrompre notre vie habituelle.
Petit virus, grosse conséquence, non ? Petit mais costaud.
Oui, c'est incroyable, surtout si on s'imagine comment ce virus a pu s'échapper, a pu naître et tout ça. Enfin, c'est de la science-fiction à l'état pur.
Alors, c'est de la science-fiction ? Peut-être pas, parce qu'en 2004, intuition, mieux c'est que vous aviez fait une chanson intitulée « En quarantaine ».
En quarantaine, vient sonner, on a désormais l'âge du capitaine, et de ses artères, et de ses honneurs, et de ses regrets. En quarantaine, vient sonner, on a désormais l'âge du capitaine, et de ses artères, de ses honneurs.
Vous êtes senti en quarantaine avec un capitaine, mieux sec, comme vous le chantez.
Oui, il y avait un peu de ça.
Ouais. Enfin,
sauf que là, je suis un peu en cinquantaine, donc ça a changé.
Il faut quand même dire ce que vous avez fait à propos de la mer. C'est que vous avez couru pendant ce temps-là, pendant le temps du confinement, la Transat OG2R avec Gilles Morvan. C'est bien ça. C'est un navigateur et un ancien vainqueur de la Transat, c'est ça ?
Oui, voilà, ouais. Moi, oui, Gilles Dat, un vrai champion. Enfin, j'ai déjà eu la chance de barrer son bateau en rade de Brest, et du coup, il m'a proposé de faire cette traversée virtuelle de l'Atlantique. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont cru qu'on le faisait vraiment.
Ah oui, ben moi aussi, je l'ai cru au départ. En fait, non, c'était en virtuel. Et vous savez combien de personnes ont joué à ce jeu-là, ont fait la compète avec vous, vous savez ou pas?
74 000, je
exactement,
crois.
Moi j'avais 76, donc c'est 76 000, hein, pas 76.
Oui.
Vous êtes
oui,
fan
voilà.
de, vous êtes fan de jeux vidéo à la base ou c'est juste vous êtes fan de navigation ?
Bah en fait, le jeu vidéo, c'est pas vraiment le jeu vidéo, je suis un dingue de backgammon en ligne en fait, donc
ah oui.
Je suis habitué à jouer avec des gens du monde entier au backgammon et c'est oui, c'est très chronophage.
On vous imagine absolument pas comme ça. Le grand public et votre banquier vous connaissent surtout depuis la sortie du disque de Nolwenn Leroy Bretonne, 700 000 exemplaires vendus. C'est vrai qu'en une ou deux chansons, ça vous a plus rapporté que toute votre carrière.
Non, faut pas exagérer quand même, mais ça a été, oui, voilà, enfin. Par rapport à ma carrière habituelle, c'était une manne inespérée, quoi. Mais comme les paroles que j'ai pu écrire pour Johnny Hallyday également ont été. Des mannes inespérées, quoi. Enfin, de l'argent qui arrive alors qu'on écrit des petits bouts de texte sur un bout de papier, quoi.
Tellement bien. Et la chanson sur Brest, absolument splendide, Tonnerre de Brest. Je vais parler de politique. Pourquoi je vous en parle? Vous avez vu qu'il y a, il y a eu les élections. Et en 2008, vous étiez engagé Miossec aux élections municipalales à Locmaria-Plouzané sur une liste PS, liste battue de 37 voix seulement au deuxième tour. Et cette année, qu'est-ce que vous avez fait en matière politique? Vous êtes présenté ou pas?
Non, je me suis pas présenté. La liste de la mairie a gagné avec 60%, donc voilà. Non, je me suis pas engagé cette fois-ci.
Bon, et puis, dernière question, c'est qu'on est une émission média. Est-ce que vous lisez tous les jours, tous les matins, le Télégramme de Brest?
Ah oui, mais je suis un papivore, donc je lis le Télégramme, je lis Ouest France, Le Monde, Libération, et puis bon, il y a Mediapart qui est assez essentiel.
D'accord, merci beaucoup Miossec. Je rappelle EN, votre nouveau titre sorti en collaboration avec la violoniste virtuose Mirabel Gillis. On le trouve partout. Merci d'avoir été avec nous en direct dans Culture Média.
Merci beaucoup.
Europe 1. À suivre les indispensables de Culture Média et on commencera avec Nicolas Carreau qui, comme chaque jour cette semaine, nous fera découvrir un nouveau livre en lice pour le prix Europe 1 GMF. On reste sur Europe 1.
Pharmacie. Dispositif médical. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. 9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et on démarre nos indispensables du jour, Philippe, avec Nicolas Carreau.
Bonjour Nicolas Carreau.
Bonjour Philippe.
On va parler de littérature, Nicolas, ce matin. Vous nous parlez d'un roman sélectionné pour le prix littéraire Europe 1 GMF. C'est le troisième roman. Il y en aura 5 en tout.
Oui, et aujourd'hui, c'est le roman de Claire Fercac chez Vertical, avec ce titre sublime, « Ce qui est nommé reste en vie ». Et justement, c'est un livre sur la vie. Et sur la mort. Claire Fercac a perdu sa mère il y a quelques années. Elle est morte d'un glioblastome, une tumeur dans le cerveau.
Et donc le livre raconte cette histoire?
Pas seulement. Claire Fercac essaye d'épuiser le sujet, si vous voulez. D'explorer toutes les facettes de cette expérience terrible. Parce que précisément, personne ne vit ça de la même façon. C'est donc un livre choral avec plusieurs voix, plusieurs patients et ceux qui les accompagnent. J'ai dit roman, mais seulement pour pas parler de récit, parce qu'il y a de la fiction dans ce livre, mais c'est pas non plus une histoire construite où l'on suivrait chaque étape de la fin de vie. Ce sont des voix qui se mêlent, qui résonnent entre elles avec chacune une manière de voir différente, une intensité différente aussi. Ce sont des choses entendues d'une certaine manière, comme si quelqu'un se baladait dans ce service de l'hôpital.
Là, on n'est pas dans le léger, hein.
Alors non. C'est intense, certes, il y a bien entendu de la tristesse évidemment et de la douleur dans ce roman, mais pas seulement, il y a des moments de poésie douce et des moments d'humour aussi. Mais oui, ça donne une lecture très curieuse, un peu inédite, un état étrange à la fois un peu surréaliste et en même temps ancré dans le plus brut des réels.
Ça n'a absolument aucun rapport avec le coronavirus, il a été écrit bien précédemment. On n'en parle pas. Donc il s'appelle « Ce qui est nommé reste en vie », c'est aux éditions Vertical, avec un S à la fin. C'est le troisième roman sélectionné pour le prix littéraire européen GMF. Et demain, vous nous parlerez de qui, de quoi?
Alors rien à voir, demain je vous parlerai du maire d'une petite ville condamné pour meurtre entre le thriller et la chronique politique.
Il a vraiment existé ce maire?
Alors peut-être, c'est peut-être une inspiration, mais c'est un roman.
Je suis en train de griller votre chronique de demain. On verra demain, je m'en réjouis. Vous soyez à ce micro, le lauréat du prix littéraire Europe 1 GMF sera dévoilé le 24 juin. Merci beaucoup Nicolas Carreau.
Merci Philippe.
La suite de nos indispensables, ce sera dans un instant avec Margot Barallon qui va nous parler d'une série diffusée sur Netflix. En attendant musique, Hélène Manarino nous en parlait il y a quelques instants. On écoute le nouveau titre d'Indochine, c'est Nos Célébrations. Et c'est maintenant sur Europe 1. Belle matinée à tous. d'Indochine avec nos célébrations sur Europe 1.
Europe 1.
À suivre, eh bien, la suite de nos indispensables du jour, on va retrouver Margot Barallon qui va parler d'une série Netflix sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et on continue à faire le tour de nos indispensables du jour avec Margot Barallon qui nous parle d'une série Netflix dont ni vous, Philippe, ni moi n'arrivons à prononcer le nom.
Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Cette série sortie lundi sur Netflix qui figure déjà dans le top 10 des plus gros succès de la plateforme.
Et ça s'appelle donc Snowpiercer, je le dis pour vous.
Ouais. Snowpiercer, en fait si.
C'est une dystopie, donc vous savez, une histoire qui se passe dans le futur, un futur qui a mal tourné.
Ouais.
Alors en l'occurrence, à cause du changement climatique, la planète s'est tellement réchauffée que les scientifiques ont tenté des expériences pour la refroidir, sauf qu'ils se sont complètement ratés, et donc maintenant il fait moins 120 degrés partout, tout le temps.
C'est les Shadows qui ça démarre comme ça.
Exactement, alors c'est l'apocalypse, hein, vous vous en doutez, et donc les humains n'ont eu qu'une seule solution pour s'en sortir, embarquer sur une sorte d'arche de Noé moderne, construite par Will Ford, un riche industriel.
Seul monsieur Will Ford, le grand visionnaire, avait anticipé la catastrophe et préparé une arche. Dans les derniers jours du grand gel, les gens fortunés, pour la plupart de hauts responsables, se sont réfugiés dans le transperce-neige. Le grand train est devenu l'arche de survie, long de 1001 wagons.
Voilà, c'est donc ce train, ce transperce-neige, Snowpiercer en anglais, qui abrite les derniers survivants de la planète. Alors le problème, c'est que tout le monde n'occupe pas la même place dans le train. À l'avant, vous avez les plus riches, dans des wagons très luxueux. Au milieu, les deuxième et troisième classes. Et à l'arrière, vous avez les sans classe, les plus pauvres. En fait, ceux qui n'ont pas pu s'acheter de billets et qui sont montés clandestinement. Et là, ils survivent entassés dans la misère la plus totale.
Et donc, ça reproduit à l'identique les inégalités de la société.
Voilà, exactement. Et ça, c'est le cœur de l'histoire. Il faut savoir qu'au départ, Snowpiercer, c'était une BD. Une BD française même, sortie dans les années 80. Ensuite, en 2013, il y a eu une adaptation au cinéma avec un film de Bong Joon-ho. Vous savez, le réalisateur coréen qui a réalisé Parasite, dont tout le monde connaît le nom maintenant.
Ouais.
Voilà. Et maintenant, c'est la série. Et vraiment, à chaque fois, le principe de l'histoire, c'est le même, les sans-classe vont tenter de faire la révolution.
La seule raison pour laquelle ils nous nourrissent encore, c'est que nous sommes leurs esclaves.
Ils vont nous affamer jusqu'à la mort, ils stérilisent les femmes. Il n'y a eu aucune naissance dans les wagons de queue depuis 5 ans.
Et dans pas longtemps, ils vont nous couper les vivres, une bonne fois pour toutes.
On a des informateurs dans une demi-douzaine de secteurs différents, on construit des réseaux.
Écoute, maintenant on n'a plus de temps pour ça.
Vous vous souvenez tous de la dernière rébellion? On s'est battu comme une armée, mais on était aveugle à chaque porte. On n'avait aucune aide qui venait de l'autre côté. 62 morts.
Voilà, donc là, on est au début de la série hein, et on comprend qu'une nouvelle révolution se prépare.
Ah, Margot, je comprends tout à fait que vous en parliez parce que votre passion, c'est les séries. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment utile de faire une série si on a déjà eu une bonne adaptation au cinéma?
Eh bien, justement, pour moi, c'est Snowpiercer, c'est l'exemple parfait de ce que peut apporter le format de la série. Je vous explique, le film de Bong Joon-ho, il était très intéressant parce qu'il était construit un peu comme un jeu vidéo. Vous aviez des personnages qui avançaient de wagon en wagon vers la tête du train, un peu comme vous passeriez des niveau.
Ouais.
C'était très linéaire, c'était vraiment très bien fait et ça durait 2 heures. Mais là, la série, elle dure quasiment 10 heures. Et c'est pas seulement regarder un film en plus long. En fait, on va garder la thématique de la lutte des classes, du monde post-apocalyptique, mais la série fait d'autres choix scénaristiques. Et en fait, par exemple, ça va commencer comme une enquête policière. Le personnel du train va faire appel à Layton. Layton, c'est le personnage principal, c'est un sans-classe, mais c'est aussi le seul véritable enquêteur présent à bord.
On nous a dit que dans le monde ancien, vous étiez enquêteur criminel. Nous avons eu un meurtre.
Je croyais que vous étiez flic.
La plupart d'entre nous étaient agents de sécurité chez Will Ford et d'autres joueurs de foot.
Je suppose que Monsieur Will Ford ne pensait pas que les riches étaient capables de s'entretuer.
Je pourrais avoir plus de soupe?
Non. Nous avons un cadavre.
Voilà, et c'est donc pendant cette enquête qu'on va découvrir tous les secrets du train.
Ah oui,
Alors, on a aussi le temps, avec le format de la série, de s'attarder sur certains détails, comme les décors, qui sont vraiment impressionnants. Ils l'étaient déjà dans le film. Et là, vraiment, le format de la série va permettre d'approfondir. Approfondir aussi certains personnages, notamment celui de Mélanie Cavill. Alors, elle, c'est la concierge en chef du train, parce que Will Ford ne sort jamais de sa cabine. Personne ne le voit. Et en fait, sa parole est relayée par donc cette Mélanie Cavill, qui est incarnée par l'excellente Jennifer Connelly.
Ouais.
À première vue, c'est une femme tyrannique, puisque c'est quand même
elle qui fait régner l'ordre, donc les inégalités. On a vu que c'était pas drôle hein, pour les sans classe. Mais on va peu à peu apprendre à la connaître et surtout à la comprendre, à comprendre ses choix. Et là, dans la série, il y a une véritable réflexion sur l'exercice du pouvoir. À quel point c'est difficile de faire régner l'ordre, parce que bon, on est quand même obligé de faire en sorte que les gens vivent ensemble. Et ça, ça apparaissait très peu dans le film et la BD. Donc vraiment, pour moi, on voit que le format série, quand il est bien exploité, il peut permettre d'approfondir un univers.
Et donc, les deux premiers épisodes de Snowpiercer sont disponibles sur Netflix. C'est bien ça, Margot ?
C'est ça.
Et la suite tous les lundis.
Voilà, tous les lundis. Donc,
Aujourd'hui, j'ai une question pour vous, parce qu'aujourd'hui, j'ai un t-shirt Bingers Do It Better. On s'en fout, mais le binge-watching, il y a un débat là-dessus. Vous préférez qu'on puisse voir tous les épisodes d'un coup? Je crois que c'était le principe même de Netflix que de faire en sorte que tous les épisodes soient visibles si les gens veulent se faire la nuit entière sur le même thème.
Oui, alors ça c'était au début, et puis en fait on voit maintenant que Netflix choisit selon les séries, et en l'occurrence sur Snowpiercer, comme vous avez des cliffhangers, parce que donc vous avez cette histoire d'enquête, finalement c'est pas si mal d'avoir des épisodes comme ça un peu distillés, et puis de toute façon vous pouvez toujours choisir d'attendre que tout soit sorti, si vous avez envie de tout vous faire d'un coup.
D'accord, et comme les gens ne savent pas ce qu'est un cliffhanger, ou plutôt pour ceux qui ne savent pas, je vais en faire un moi-même. Cliffhanger, Margot Barallon nous dira la prochaine fois ce qu'est un cliffhanger. C'est ça, un cliffhanger. À très bientôt, Margot.
Allez, à suivre dans Culture Média, notre cerise sur le gâteau, le portrait inattendu d'Hélène Manarino. Aujourd'hui, on réécoutera celui de Juliette Binoche, et c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vondel.
Et comme chaque jour, depuis lundi, Philippe, on se fait plaisir. En fin d'émission, on redécouvre le portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Et aujourd'hui, on se fait plaisir, vous l'avez dit, Juliette Binoche.
Bonjour Juliette Binoche.
Bonjour.
Juliette Binoche, je suis là pour dévoiler ces petits détails que l'on ne connaît pas encore de vous. Pas forcément. Vous pouvez prendre ce portrait comme un cadeau d'anniversaire, donc un anniversaire que vous avez fêté hier. Vous avez sûrement dansé sur l'une de vos chansons préférées. Et vous dansez dessus souvent, quand même.
Ah, j'ai sauté sur le lit de ma mère à pieds joints. J'adore. Ouais.
Vous sautez encore sur les lits?
Souvent. Mais oui, Juliette Binoche.
Autrement, on dira.
Ceci ne nous regarde pas.
Je vais continuer après cette phrase. Vous aimez chanter, danser, peindre aussi. Vous auriez aimé être peintre, vous skiez très bien dans votre domaine préféré, le molar, rire. Oh. Alors.
Oui. C'est une station, oui.
C'est une station. Oui.
Près d'Allier.
Rire, alors vous pouvez vite partir en fou rire sur un mot prononcé de travers, donc je vais essayer de faire attention. Vous avez en tout cas connu des anniversaires inoubliables, je dirais même plus des cadeaux inoubliables, comme le jour de vos 50 ans où l'une de vos amies vous a fait livrer 50 balais. Tout simplement.
Non, c'était pour mes 40 ans.
Ah, 40 balais.
40 balais, ouais.
Alors comment?
Ah bah c'est organisé, mais elle est incroyable.
Non mais maintenant je viens de comprendre votre fascination pour le ménage dont vous parliez tout à l'heure. C'est les 40 balais.
Alors Juliette Binoche, vous avez aussi des petits rituels, et ce ne sont pas des balais en cadeau chaque année. Rien ne vous fait plus plaisir sinon de lire Dialogue avec l'ange, que vous lisez tout le temps dès que vous avez un moment. Alors dialoguons ce matin avec un ange du cinéma, tout simplement, exigeante et consciencieuse. Même si vous avez du mal à rester en place, vos scénarios sont souvent remplis de mini post-it de couleurs en permanence. Alors Juju, comme on vous nomme, vous aimez la vie paisible, des grandes balades en forêt où vous prenez les arbres en photo, balades pédestres très régulières, cela vous change de votre voiture Kangoo jaune que l'on prenait pour une voiture de la Poste.
Un mythe s'effondre. Mais Juliette Binoche en Kangoo, je pensais pas qu'on me dise ça un jour. Vous confirmez?
Ouais. J'ai eu une Kangoo, avec les enfants et tout, d'accord. C'est très bien. C'est, la voiture soleil, c'est bien.
D'accord.
Vous aimez l'esprit cocooning avec votre poncho marron et un petit peu de blanc, le feu de cheminée.
Avec... Elle en rit.
Je pensais pas vous dire ça un jour. Quand même.
Moi non plus, moi je pensais même pas l'entendre.
Le feu de cheminée avec un livre de Fabienne Verdier, et puis vous développez une véritable passion pour les pantoufles aussi, Juliette Binoche.
Non, c'est vrai.
Ne dites pas que vous n'aimez pas les pantoufles.
Non, je déteste. Mais je vais pas le dire, sinon vous allez partir. Non. Si, j'adore.
Ou pieds nus.
Bah, pieds nus, oui.
Mais quand il y a de la pierre par terre, on met les pantoufles, c'est hyper agréable quand même. Il y en a une qui dit
Oui. Alors, des pantoufles, peut-être en écoutant ça.
c'est Purcell.
Le combat de Tancrède, de Monteverdi.
Ah, Monteverdi, ouais, pardon.
Alors, les choses confortables, votre confort passe aussi par un millefeuille de chez Le Nôtre, mais surtout par votre pas passion pour le chocolat.
Ah ouais, ça c'est vrai. Ça, j'ai vu le scénario aussi rapidement.
Ah oui. Vous avez récemment découvert le chocolat sans sucre aussi.
Pas trop quand même, c'est bon. Super.
Mais vous l'avez découvert, ouais, il n'y a pas longtemps. J'ai juste dit ça.
Mère, la mer, le café, le chocolat amer.
Et puis il y a votre passion tisane, votre romarin le matin, vos mélanges du soir.
Oh, dis donc la vie.
Je dis tout, hein.
Ouais. Ah, mais ça m'est complètement égal et avec plaisir.
Vous prenez régulièrement soin de vous. Le matin, c'est gym. Vous avez le tapis et tous les accessoires. Une petite séance de luminothérapie. Juliette Binoche, ce côté paisible et confortable, vous aimez l'offrir aussi aux autres. Vous êtes la spécialiste des fondues chinoises. Vous avez acheté plein d'appareils pour offrir cet esprit de convivialité à vos amis.
Je vois que vous avez lu tous les interviews, les petits morceaux d'interviews.
Ah non, j'ai appelé vos proches, surtout.
C'est vrai?
Vrai cordon bleu, très bonne cuisinière en matière de salade et très bonne pâtissière. Alors parfois c'est moins paisible. À l'époque, vous aviez une chienne, Adora, qui à chaque fois que quelqu'un sonnait à la porte, elle aboyait comme une furie. Aujourd'hui, vous avez deux chats, frères et sœurs, Bacchus et Luna. Mais surtout, pour le... Me regardez pas comme ça, je l'admire. Vous me faites peur.
Moi aussi, j'ai peur.
Mais surtout, pour
Je suis hyper étonnée, vous sachiez les noms de mes chats et tout.
Mais bah c'est important, ils nous écoutent.
Je n'ai pas lu vos interviews, j'ai juste mené une enquête.
Ouais, j'ai vu ça.
Mais enfin, surtout, pour le côté très vif, on va repartir 20 ans en arrière, en Bretagne. Vous étiez dans une maison avec l'une de vos amies, vous avez voulu faire un feu de cheminée. Sauf que vous n'aviez pas ouvert la trappe. Conséquence, tout était très enfumé. Ça aurait pu s'arrêter là, mais ce même jour, il y a eu aussi un problème de toilette. Et ce n'est pas tout, il pleuvait et votre fils bébé pleurait sans cesse.
Oh là là.
Est-ce que vous vous souvenez de ça?
C'est Marielle qui vous a raconté ça?
Je ne vous dis pas.
Ah mais non. Non, non, on ne sait pas. On ne sait pas qui a dit
mais
ça.
C'est vrai.
Mais c'était vrai, la trappe?
L'histoire de la trappe avec le... Ah, je ne m'en souviens pas. Alors franchement, ça arrive...
C'était peut-être votre anniversaire.
Ouais, c'est ça, avec les balais. Et vous avez gardé votre sang-froid, Juju, car tout cela, vous avez déclenché un gros fou rire. Un sang-froid que vous perdez lorsqu'il s'agit de souris ou d'une araignée que vous avez récemment.
J'ai la phobie des souris.
Mais il n'y a pas de souris chez vous.
Non, parce que j'ai deux chats.
C'est pour ça.
C'est pour ça. Ou d'une araignée, vous avez récemment appelé vos proches pour enlever cette petite bête qui se trouvait dans la baignoire. Alors, Juliette Binoche...
Petite bête, ça devait être un énorme monstre.
Je ne l'ai pas dit, je n'ai pas osé.
Ouais, mais elles ont souvent soif, en fait.
Les araignées.
Mais souvent, on les trouve dans les salles de bain parce qu'elles ont soif. Donc ça me... C'est vrai que ça me touche, mais à la fois, j'ai hyper peur.
Mais ce portrait d'un niveau de précision...
Ouais. Vous habitez en ville ou à la campagne?
Ben, j'habite en ville, mais j'ai une maison avec un petit jardin.
Mais les araignées,
j'ai recréé
à la campagne.
Un peu la campagne à Paris. Voilà.
Alors Juliette Binoche, la bonne vivante, comme vous dites, je puise mon énergie en étant dans la vie. Et nous, on est contents d'avoir Juliette Binoche dans la nôtre.
Merci beaucoup,
c'est
Hélène.
Gentil.
Vous êtes reconnue?
Oui, des détails, oui, tout à fait.
Oui, c'était pas dans la presse tout ça. Hein.
Ah bah non, j'ai
non,
dit. Hein,
non, non, mais il y avait un mélange. Parce que dans la presse, je me cache pas. Hein,
non, c'est vrai.
Non, non.
On n'avait pas le nom des chats dans la presse, on n'avait pas les araignées.
Ah, ça, c'est vrai.
Non, mais Hélène ne travaille jamais avec la presse, puisque justement, ce qu'elle essaie de faire, c'est les choses qui ne sont pas dans la presse.
Mais oui.
Et c'est là
mais
tout
c'est
son
Marielle,
talent.
Enfin, vous me direz à la fin, quand même.
Non, elle ne le dit jamais. Elle le dit jamais.
Je vous dis jamais.
Mais si.
Bah non,
elle n'a jamais dit. Elle ne va pas faire une exception. Vous demanderez à vos chats.
Non, le dit jamais.
Jamais, jamais, jamais. Culture Média, c'est terminé. Merci à tous et toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain à 9h pour Culture Média avec le youtubeur Greg Guillotin et puis le réalisateur Michel Hazanavicius. Oscar pour The Artist. Il sort en livre le scénario de son film La classe américaine, un livre culte sorti en 93. À demain, Céline Dacosta.
À demain, Philippe Vandel avec le micro, c'est mieux. Dans un instant, c'est Anne Romanoff qui débarque avec toute sa bande et ses invités sur Europe 1.
Le micro était confiné.